bonsoir à tous. Vous avez reconnu le générique de cette émission mensuelle proposée, préparée et présentée par Sophie Laurence, les poèmes du lundi. Aujourd'hui, Sophie va nous parler de Louis Aragon et de toute sa poésie. Bonjour Sophie.
Bonjour. Je vais vous dire juste une petite phrase de Jean Racine pour commencer. Ce que je sais le mieux, c'est le commencement. Alors maintenant, c'est Aragon qui parle. Ce commencement de moi. J'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'ensuit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais rien là de raisonnable puisque je pouvais parler, crier le mot « lion » et même imiter le geste du lion, le grognement et la fureur, comme je l'avais vu une fois au jardin d'acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire, puisque je le savais déjà. C'était le plus grand obstacle que ceux qui voulurent m'enseigner l'écriture trouvaient sur leur chemin. Un obstacle quasi insurmontable, tel était mon acharnement. Et je trouvais ces gens stupides, lesquels n'entendaient pas ce que je leur disais, qui me paraissait l'évidence. Je cassais mon crayon ou je le jetais par la fenêtre. Enfin, on y renonça. Ma mère disait que c'était affreux, un enfant qui ne saurait jamais écrire. Moi, je m'en passais. Je dictais ce qui me traversait la tête à ces deux tantes que j'avais. Et je constatais qu'après leur gribouillis, restituait pour d'autres yeux ce que j'avais dit, très exactement, si bien que la parole dite me paraissait fort suffisante. Quand on eut renoncé à me voir écrire, cela me donna de longues heures pour moi tout seul, dans le mépris où l'on m'abandonnait, avec quelque tristesse. J'en profitais pour réfléchir et dire à voix haute ce que je pensais, quand personne n'était à portée de m'entendre. Il m'en souvient, je m'émerveillais, remarquant l'identité de ce que j'avais voulu dire et de ce que je disais, et cela me rendait encore plus dédaigneux d'écrire. Tout de même, à me parler ainsi, je pris l'habitude de me poser des questions et d'y donner des réponses, parfois bizarres. Et j'ai pris goût à leur bizarrerie, parce que je vous le demande, pourquoi se répondre ce qu'on savait avant de le dire ? C'est ainsi que me vint l'idée d'inventer mes réponses de toutes pièces. Je pouvais bien avoir 6 ans, ou pas encore. Un beau jour, l'idée me vint que si je savais écrire, je pourrais dire autre chose que ce que je pensais. Et je me mis à essayer de le faire avec tout ce qui s'était fixé dans ma mémoire, des lettres, des syllabes, des mots. Si bien que je fis en très peu de temps de grands progrès, parce qu'on me tenait, on ne me tenait plus la main, que j'employais mon crayon à ce qui me passait par la cervelle, intercalant des bonshommes entre les lettres ou des poissons, des cerfs-volants tenus au bout des mots, par un grand fil zigzagant. Évidemment, si de tels exercices étaient tombés sous les yeux de quelqu'un, de mes tantes, ça leur aurait fait hausser les épaules, on n'aurait pas su me lire, et j'en éprouvais non pas du dépit, mais au contraire, de la fierté. Peu à peu, je me mis à me persuader que l'écriture n'avait pas du tout été inventée pour ce que les grandes personnes prétendaient, à quoi parler suffit, mais pour fixer bien plutôt que des idées pour les autres, des choses pour soi, des secrets. Le jour où cela me vint à l'esprit, j'en fus si frappée que je me mis à tenter d'écrire en cachette sur n'importe quoi, le papier, les murs, avec une passion violente. On m'en tira les oreilles, on m'en flanqua des gifles, rien n'y fit. Et quand on me demandait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gribouillages dont tu salis tous les nappes, les cabinets qu'on vient de repeindre, l'intérieur des placards, enfin c'est infernal! Moi, je continuais de plus belle, je jouais au secret. Voilà ce que personne ne pouvait savoir. Et c'était un jeu qui m'enflammait, d'abord parce qu'il me forçait à avoir des secrets, puis à leur donner forme, comme si j'avais un correspondant, un ami, qui seul pouvait les comprendre, mes griffouillis, qui seul aurait pu me répondre, par ce même moyen. Enfin, c'est pour cet ami-là que je me pris à faire des progrès dans l'art de tracer des signes que je montrais au miroir, où un autre moi-même faisait semblant de les lire. Un beau jour, mon oncle, que je détestais à cause de ses moustaches, me chipa un papier que j'avais noirci et s'écria « Ah, mais cet enfant écrit ! Ah, quand a-t-il appris à le faire ?» Ce que j'écrivais comme je l'écrivais, ce qu'on pouvait en déchiffrer. Bon, cela, tout cela sans doute, mais enfin quand j'y repense, il n'en reste pas moins que j'avais commencé d'écrire et cela pour fixer les secrets que j'aurais pu oublier. Et même plus que pour les fixer, pour les susciter, pour provoquer des secrets à écrire. Bien sûr, je ne me formulais pas la chose tout à fait comme ça, et c'est bien plus tard que je le compris. Ce ne peut être que bien plus tard. Mais alors, en tout cas, je me persuadais que j'avais commencé de le comprendre dès l'âge le plus tendre, si bien qu'aujourd'hui même, je le crois. Je crois encore qu'on pense à partir de ce qu'on écrit et pas le contraire. Tout au moins les gens de ma sorte, même s'il en est d'autres qui font des additions ou des soustractions pour savoir ce qu'ils vont être obligés de payer et de ce qu'ils pourront demander en échange de leur travail. Moi, je ne fais pas des calculs que pour voir surgir sur le papier des chiffres, des nombres inattendus dont le sens m'échappe. Mais après quoi, je rêve. J'écris comme cela des romans. Et après, bien sûr, il y a eu l'expérience de la guerre. Il part comme infirmier assistant médecin pendant la deuxième partie de la guerre de 14-18, puis celle de 39-40. Et alors là, nous allons donc entendre ces poèmes de toute la période de la résistance, de tout pendant la guerre. Alors il parle de son pays, mon pays, mon pays. Mon pays, mon pays, lis toi-même au fond de tes mares l'histoire mêlée aux présages, dans les mares pareilles en toutes choses aux yeux magnifiques des mourants. Le grand songe cimérique perdu dans la forêt celte, qui donc en gardait encore le frémissement de cette heure d'hier au milieu des intrigues et des menaces? Qui donc? Avec l'effervescence des siècles méconnus où dans cette forêt montait la voix des bardes, c'est la forêt brocéliande, l'exaltation de ce ciel sur notre terre, avec la vertu des lignes magiques à ceux-ci réservées qui charmaient les sources et non pas les conquéraient, avec l'enivrement de la grandeur qui portait aux exploits la jeunesse insoumise, la jeunesse éternellement insoumise, et ses exploits étaient de reines délivrées, de prisons ouvertes, de dragons égorgés, de géants abattus, toujours miraculeusement disproportionnés aux paladins sortis des fourrés en pleine justice. Et ici commence mon pays, mon pays, mon pays, mon pays. Or, tout ceci n'était mémoire ni légende. Au fond de la douleur immensément renaît la gloire, ce soleil ou ce vin, comme vous voudrez l'appeler, qui n'est ni le hochet qu'on croit, ni la fumée, la gloire faite d'hommes de chair et d'au milieu de ces hommes levés. On vit donc ressurgir les géants oubliés. Vous croyez être un peuple petit, de tâcherons et de peureux, on vous l'avait tant dit que vous le répétiez. On vit donc ressurgir les géants oubliés. Dans les gares où veillaient des sentinelles étrangères, passaient des jeunes gens avec des havres sacs et des souliers ferrés. D'autres, pourtant maigris, avec leurs hautes ossatures et la petite valise où rien ne peut entrer. Au coin des rues, dans des quartiers écartés et déserts, des hommes et des femmes se rencontraient qui ne parlaient pas d'amour à voix basse. Des lumières, la nuit, éclairaient mal d'étranges taches. Les maisons isolées se peuplèrent. Mon pays se gonfla de l'eau de ses secrets. Mon pays. Ce fut la chevauchée informe, énorme, dont un jour quelqu'un saura mieux que moi dire ce qu'elle fut. Le temps des 100 000 aventures, le temps où plus une ombre n'était sans menace, plus une lumière sans cruauté, les fleuves ne purent plus croire aux barrages, ni les trains aux rails, ni l'ennemi au lendemain. De partout, les témérités se levèrent. Il y eut tant de prouesses et de déchirements qu'on sourira des Iliades avant qu'il ne soit bien longtemps. Personne d'entre les ouvriers de la patrie, personne d'entre ces gens soudain promus au martyr ou à l'héroïsme ne s'étonna, ni recula devant son sort. Hercule était devenu le français moyen. Hercule ne se remarquait plus dans les rues ou les champs. Les cyclopes auraient paru petits. Personne à entasser les montagnes n'hésitait. Et Pélion sur Ossa faisait figure d'un pâté de sable dans mon pays, mon pays. Alors nous chantions tout bas à notre manière, les refrains murmurés se propagent fort bien. Vous savez, quand sur les trottoirs d'une grande ville reprenant à un passant l'air entêtant qu'il sifflait, vous le transmettez sans vouloir à cet autre homme croisé qui, plus loin, s'en va et le porte. Notre chanson s'enfla, reprise et multipliée. Quels échos infinis recèlent un peuple, quel mystère! Notre chanson montait aux lèvres et sans qu'on sût presque qu'on chantait. Mon pays devenait un grondement profond et sourd comme la mer quand elle approche des falaises, comme le bateau trépidant devant le port. Mon pays devenait le chant même du monde, la musique où se résument enfin tout l'espoir et tout le désespoir, mais qui grandit de la volonté de vaincre de l'homme sur la nature et sur lui-même. Mon pays arrivait dans la nuit vers les régions où est un combat, qu'elle a dans sa pâleur des sanglots et du sang. Mon pays qui chantait abordait la lumière.
Le corps.
Alors, on va écouter tout de suite le corps. J'aime beaucoup.
Le corps, parce que la Diane française sonne.
Allez, on écoute.
Le drôle de printemps. Comme un garçon livreur de couronnes mortuaires chargé de fleurs plus que jamais tuèrent. Mois de mai, mon beau mois de mai, pour qui tant de gens se tuèrent. La pluie épouse épouvantablement les toits roux. Beauté blafarde, avec sa grande voilette à trous, le faubourg qui monte en guimbarde y fait crier le cœur des roues. La ville a la misère en proue, elle averse les maisons défardes, les musées cardent, et les vents rouillés s'en vont ouvrir les verrous. Au printemps, qui tarde, j'ignore où, du côté de Spire ou de Karlsruhe. Ferme les yeux, regarde. Ici jeunesse, ici feuillage, eau fraîche, oiseaux, égoïsme solaire, héritage bleu des lézards, la grande nouveauté de vivre où tout est si bizarre que le hasard se blesse aux biseaux des roseaux. Ici la rêverie reine ou fée marraine, ici saute au mouton des mares boucheries, d'aurore avec l'appel des chats se faufilant de rouge les forêts, sur un ciel d'arbre qui salue un ciel de marbre. Ici le bruit des chevaux s'éloigne comme un secret qui ne laisse que ses croissants de fuite dans les armes ou la craie. Alouette! Ici, monde naissant qui balbutie. Alouette, alouette. Qu'il est beau le bliot des champs, qu'il a de fleurs aussi. Alouette, alouette, alouette. Mon doux ami le mai reçoit l'adoubement des mains du ciel au milieu de mille lances, silhouettes de silence, et c'est midi qui sonne. Alouette, 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 alouette. Autant de coups portés à la quintaine du temps. Musique, chantez la force du même montant. Le nouveau chevalier sourit comme un soleil sur les temps où l'anguille attrape une mouche au vol. Elle, qu'attends-tu, héros? Qu'attends-tu, errant? Qu'attends-tu? Rêveur d'aventure pour délivrer la terre, la grande princesse brune, aux yeux bleus tendrement battus, qui sont sources aux pleurs et miroirs aux mystères. Joli mois de mai qui chasse le froid dans son manteau noir cousu de coquilles, où l'écho des mers se trouve à l'étroit, que de mendiants jettent leurs béquilles quand tu passes droit sur ton palefroid, couleur de jonquille. Joli mois de mai qui met le monde en désarroi comme un grand jeu de quilles. Chevalier, chevalier, qu'y a-t-il que le trot de ton cheval trouble ainsi les bergers, les forçats, les soldats et les rois? Alouette! Une heure déjà, et le déjeuner, tu ne songeas pas. Tu n'y songeas guère, et le déjeuner, tu n'y songeas pas. Alouette! Le garde-barrière ouvre en traînant le bas du bar du portillon vermillon. Il y a des sidis qui vont à leur travail avec leurs boîtes à outils. Alouette! Et les horloges de la ville ont le chic pour ne pas sonner en même temps. Alouette! Où as-tu la tête? Oh, ville envahie aux yeux vides, dont les écoles à feu secouent la torpille et qui suit d'un long regard glacé ce triangle d'oiseaux étrangers dans le vent. Mais ce printemps, pour moi, murmurera toujours les mots d'un autre moi, d'un autre mai. Parmi les mots d'amour. Alors nous allons entendre la chanson du franc-tireur, ce qu'on appelle les FTP. Ce n'était pas assez, patrie, que ce torrent de soldats verts et ton vin rouge dans leur verre et ton armée à la voirie. Il leur fallait les bras des hommes et le cœur naïf des enfants, matins gammés, jours étouffants. Sommes-nous des bêtes de somme? Bleus et noyés dans l'eau des blés, col des marins couleur des veines qui voient nos peines, voient nos haines. Tous nos navires ont coulé. Toulon, plus un mât n'y balance. Je n'entends que mon cœur qui bat. Tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Il règne un bizarre silence. Le silence blanc des statues dont les yeux vides sont sans larmes et dans l'absence de tes armes, ma France, que désires-tu? Oh, pareil au Christ, aux outrages, le mensonge en fait de bâillons par les maillons de tes haillons saignant le sang pur des otages. Ils t'ont couverte de prison, de ce masque affublé où grince l'énigme sourire de Reims sur les fleurs de la trahison. Ils ont mis un sceptre de paille dans ta main pour rire de toi, puis t'ont hissé au haut des toits comme un mauvais épouvantail. Devant toi, pliant le genou, en ton nom rendu la justice, qu'importe qu'ils te travestissent, tu restes la même pour nous. À quoi rêves-tu, notre mère? Les yeux perdus, les yeux tournés vers la mer Méditerranée, à quoi rêves-tu, douce amère? Je rêve, dit-elle au printemps, à notre gloire impérissable qui refleurit parmi les sables. Je rêve d'Afrique et j'attends. J'attends. Les jours d'apocalypse où volent les burnous rouges d'Espaïe. N'attends pas ma terre envahie, nous nous lèverons de ce sol. N'attends pas tes fils, on choisit la liberté, cette rebelle. Pour que les noces soient plus belles, je n'ai pas donné mon fusil. Mon fusil dormait dans l'armoire, mes mains le tiendront mieux caché. Le temps revient des francs archers, mon fusil a bonne mémoire. Écoutez, frères d'Algérie, les balles, chantez l'espérance, où je tire l'écho dit France, où je meurs, renaît la patrie. Et voilà un chant patriotique, mais très beau et très rare. C'est une chose qui disparaîtrait un petit peu, hein, l'idée de patrie. Donc, ça, c'est l'FTP, c'est-à-dire celui qui part avec son fusil, qui rassemble, qui sera rejoint d'autres dans la forêt, partout, dans les rochers, les montagnes, les maquis. Ici, dans les Alpes de Provence, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai beaucoup rencontré encore des maquisards qui étaient âgés, mais qui m'ont beaucoup raconté, beaucoup raconté. D'ailleurs, j'aurais fait un spectacle pour eux sur la résistance, tous les poètes de la résistance. Une grande fête, c'était. Il y a déjà longtemps.
On est toujours avec Louis Aragon et Sophie Laurence sur Fréquence Mistral jusqu'à 18h.
Alors là, nous allons dire un poème que tout le monde connaît par la chanson qui s'appelle « Il n'y a pas
d'amour heureux ».
Voilà. C'est une seule note. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Et puis sa montre, ni sa force. Bon. Moi, je ne la chante pas. Hein? Ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit étendre ses bras, son ombre est celle où tu ne crois. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. C'est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux, qu'on retrouve au soir, désœuvrés, incertains? Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nos regards passés, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux.
Je préfère le texte pas chanté, en fait.
Ah, voilà.
Voilà.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu beaucoup l'occasion, moi je dis beaucoup la poésie sans musique, sans chanson, et beaucoup de gens me disent oh, heureusement qu'il y a les chansons, ça a fait connaître un peu Aragon. Oui, c'est vrai, d'une certaine façon, il a passé sur les médias. C'est très difficile de trouver les œuvres d'Aragon. Quand je demande à la médiathèque des livres d'Aragon, ils sont en magasin. Il faut attendre un bon moment pour les avoir. Il faut signer un papier. C'est pas accessible.
Ah oui.
Donc je veux dire que Aragon, je ne sais pas, mais on continue à le maudire dans certains milieux et dans beaucoup de milieux. Ce qui fait que le danger, c'est de faire disparaître cette œuvre, la faire disparaître. Pourtant, elle est immense, immense. Mais bon, moi, je trouve que c'est des poètes, il n'y a pas que lui d'ailleurs, qu'on fait disparaître. Et c'est, si vous voulez, c'est ma résistance à moi. Voilà. Donc, on va venir maintenant sur un poème d'une petite fille massacrée. D'ailleurs, Nazim Hikmet a fait à peu près le même poème. Je pense qu'il a dû s'inspirer de Aragon. D'ailleurs, Aragon s'inspire aussi de beaucoup d'autres poètes. C'est très intéressant. Vous pourrez revenir. Ce sera vainement surenchérir l'enfer et la bête féroce. Vous pourrez enfoncer la porte avec vos crosses allemands. Vous n'éveillerez pas cet enfant. Elle est morte avant d'avoir ouvert tout à fait ses grands yeux. Rien ne la tirera du rêve merveilleux qui l'emporte. Dans ses cheveux défaits, elle dort. On croirait vraiment qu'elle va respirer, qu'elle respire. Dans ses petites mains, la nuit met son empire en secret. Elle ne porte plus le poids de sa mémoire. La rose, pour mourir, a simplement pâli. Doucement, 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 elle oublie. Vivre et voir. Toujours le secret profond. Et un petit poème, alors, bien sûr, sur son grand amour, sur sa grande inspiratrice, Elsa. Elsa Triolet, qui a écrit aussi de très beaux romans, qui était d'ailleurs la belle-sœur du grand poète Mayakovsky. Elle l'a beaucoup inspirée. Elle écrivait beaucoup, elle aussi. Elle était d'une femme. Sa sœur aussi était une poétesse. On vivait dans l'époque de la Révolution. La Révolution, tout à fait au début, ils ont vécu des choses intenses avec Mayakovsky, qui d'ailleurs, après, il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus supporter. On lui menait une vie infernale. Et pourtant, ses poèmes. D'ailleurs, on en parlera de Mayakovsky. Donc Aragon a connu Mayakovsky, et il a connu Elsa. Je ne sais pas s'il l'a connue en Russie ou s'il l'a connue en France. À mon avis, il a dû la connaître en Russie. Voilà. Là, il parle. Elsa au miroir. C'était au beau milieu de notre tragédie, et pendant un long jour, assise en son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie. C'était au beau milieu de notre tragédie. Et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit, c'était au beau milieu de notre tragédie, qu'elle jouait un air de harpe sans y croire, pendant tout ce long jour, assise à son miroir. Elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire, pendant tout ce long jour, assise à son miroir, à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie, sans dire ce qu'une autre à sa place aurait dit. Elle martyrisait à plaisir sa mémoire, c'était au beau milieu de notre tragédie. Le monde ressemblait à ce miroir maudit, le peigne partageait les feux de cette moire, et ces feux éclairaient des coins de ma mémoire. C'était au beau milieu de notre tragédie, comme dans la semaine est assis le jeudi. Et pendant un long jour, assise à sa mémoire, elle voyait au loin mourir dans son miroir le jour.
Est-ce qu'on fait une pause musicale ?
Oui. On va écouter un petit extrait tout petit d'une voix magnifique d'un compositeur qui était aussi un grand chanteur castra de l'époque avant la Révolution française. C'était un Italien, il était installé beaucoup en Allemagne et il s'appelle Stefani.
Est-ce que c'est ça ? Cecilia
oui.
Bartoli ?
C'est Bartoli qui chante.
D'accord.
Vivrò
faut ajouter que l'arbre ne me cachant plus la forêt, j'écoutais dans les murmures de Brocéliande les voix conjointes de ceux qu'on appelle ici des saints et là des chevaliers, et qu'elles ressemblaient pour moi aux voix de simples mortels qu'aucun roi n'avait de son épée à l'épaule frappée, aucun dieu n'avait d'une auréole munie. Les voix de nos héros, enfants du peuple, qui prenaient en foule place aux côtés des archanges guerriers des vitraux et des paladins des chansons de gestes. Peu m'importait enfin qu'au cou de l'un d'eux pendît la médaille du baptême, tandis qu'au bras nu d'un autre on put lire en lettres tatouées ni dieu ni maître de Blanqui. Enfin, il faut ajouter que d'où les mythes chrétiens m'apparaissaient maintenant étaient vraiment pour moi des mythes. Si bien que dans le livre d'heures d'Étienne Chevalier, ce n'est plus la loi de Sainte Apollonie, dans l'illuminure de Jean Fouquet qui me frappe, mais la torture à cette femme infligée, semblable à la torture des prisons nazies. Si bien que je n'ai plus aucune difficulté à regarder les tableaux à sujet religieux dans lesquels, au-delà de symboles qui ne parlent pas à mon cœur, je puis toujours retrouver le ciel de France et un petit paysage où il fera bon vivre quand on aura chassé les diables, les coquecigrues, les bourreaux, de quelque nom que vous appeliez les envahisseurs de Brocéliande. Donc nous quittons la forêt de Brocéliande et les poèmes de la Diane française. Et nous allons plutôt écouter enfin un peu Aragon qui parle toujours, c'est toujours lui d'ailleurs, mais là il parle de l'exactitude en poésie. Il dit: quand j'écrivis Brocéliande, les nazis tenaient le haut du pavé dans mon pays et d'une façon pas du tout mythique. Ils venaient de tuer avec des fusils modernes sous l'ombre de Siegfried et de Valhalla à la clé des hommes de chair et de sang qui étaient mes amis et qu'ils avaient préalablement torturés, et parmi eux, mon cher Politzer, Georges Politzer, qui était l'homme du monde qui avait le mieux dénoncé le mensonge des mythes hitlériens, de leur utilisation pour la domination de l'homme par la brute. Georges Politzer, qui venait de publier dans La Pensée libre l'admirable pamphlet « Sang et or », où est démontée la machine dénuée dont les bourreaux essayaient d'entourer leurs échafauds. En 1942, la France tout entière ressemblait à Brocéliande. Dans la forêt, les sorciers de Vichy et les dragons de Germanie avaient donné à toutes les paroles une valeur incantatoire. Pervertie, rien ne s'appelait plus de son nom, et toute grandeur était avilie, toute vertu bafouée, persécutée, si bien que ce fut une contagion extraordinaire de héros, une ivresse d'exploits, une réincarnation de la légende dans l'histoire. Je n'ai jamais voulu faire école. Si une certaine forme s'est adaptée à la poésie d'une époque de ma vie et de la vie de mon pays, jamais je n'ai pensé tourner cette force en religion comme le font ridiculement les écoles poétiques. J'ai refourbi le vieil alexandrin, l'octopode usé comme un sourire et le décasyllabe de la tradition médiévale démonétisé par les mirlitons modernes. Voilà, dans ma forêt, Brocéliande existe le merveilleux païen, le merveilleux chrétien, le merveilleux antichrétien du Moyen-Âge avec ses racines celtes et le merveilleux moderne des machines et de la publicité. Donc nous allons passer aux romans inachevés, qui sont des poèmes beaucoup plus mûrs, bien après tout ça. Donc, mais quand même, nous allons dire un poème sur l'affiche rouge. C'était une affiche que les nazis avaient accolé avec toutes les têtes de résistants qui étaient condamnés à mort. Ça s'appelle... C'est un poème qui a été dit, écrit pour l'inauguration de la rue Manoukian, qui était celui qui avait initié ces groupes d'immigrés, d'étrangers, qui sont mis avec la résistance. Alors ça s'appelle « Strophe pour se souvenir ». Donc il y a une rue à Paris qui s'appelle la rue. Voilà. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais l'heure du couvre-feu des doigts errants avait écrit sous vos photos « Mort pour la France !» Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard. À Nerivan. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Ça me bouleverse. Oui, nous avons vécu, moi j'ai vécu cette époque. Mon père était aussi FTP. Et d'ailleurs, souvent enfant, il m'emmenait, quand il rencontrait les maquisards, il m'emmenait avec lui dans le camion qui ramassait le lait dans les fermes. Ça lui servait de... Un homme avec une petite fille n'est pas... C'est pas possible, c'est pas un résistant. Voilà. Alors, nous allons. Une respiration profonde, voilà. Ah, c'est un poème aussi de maturité. Enfin, aussi avant, mais il n'a pas la même. Je change ici de maître pour dissiper en moi l'amertume. Les choses sont comme elles sont, le détail n'est pas important. L'homme apprendra, c'est sûr, à faire à jamais régner le beau temps. Mais ne suis-je pas le maître de mes mots? Qu'est-ce que j'attends pour en chasser ce qui n'est pas cet immense bonheur posthume? Il fait un soleil si grand que de tous les côtés aujourd'hui, le lavis semble tout éteint, dans les vents parler d'un majon. Et la route n'est qu'un bourdon, le ciel l'ébranlement d'un gond. Il me plaît que mon ver se mette à la taille des chaises longues et le cheval prenne ce pas où son cavalier le réduit. Il me plaît d'entendre un bras d'homme frapper sur le bois ou la pierre qui fabrique des pieux, peut-être, et c'est quelque chose Cliclou, il me plaît que le chien dans la colline aboie et que la roue au fond du chemin bas grince et que les toits soient roux, que les serres sur les côtés fassent poudroyer la lumière. Il y a des jarres de couleurs au pied des hauts bouquets de joncs, des palissades que le jour rend aussi roses que le sol, des demeures négligemment qui tiennent leur pain parasol, et sur la musique des murs étagés, do, ré, mi, fa, sol, dans le désordre végétal, l'envol gris perle des pigeons. La mer, au loin dans le vallon où le regard s'enfonce, par les sentes là-bas, vers des romans qu'on n'aura jamais lus, l'automne a jalonné l'effacement des pas dans les talus, passant léger, armant, furtif, que rien ne dénoncera plus, une fois l'escalier de la maison recouvert par les ronces. Puis, par les brumes des monts bleus que perce un regard d'épervier, on voit dans le feu blanc se soulever une épaule de glace tout au long du paysage où la nue et la terre s'enlacent. Et d'ici, je contemple l'Alpe et sur mes cheveux ma main passe, car c'est la saison qu'à l'envers montre ses feuilles l'olivier. Et les platanes avec qui dans les feuilles joue-t-il aux cartes? Est-ce avec vous, faux beaux amoureux, sur les bancs assis des premiers? Le froid vers 5 heures qui vient fait-il moins que vous vous aimiez? De quoi peuvent bien vous parler dans l'ombre tout bas les palmiers? Et quel chiffre nous dit la vigne avec ses doigts nus qu'elle écarte? J'ai vu ce couple au déclin du jour, je ne sais dans quel quartier. Nous avions fait un détour au-dessus de Nice avec la voiture. La ville mauve en bas allumait peu à peu ses devantures. Ses enfants se tenaient par la main comme sur une peinture. Histoire de les regarder, je me serais arrêtée volontiers. Il y avait dans ce spectacle rien que de très ordinaire. Ils étaient seuls, ils ne se parlaient pas, ne bougeaient pas, rêvant. Ils écoutaient leur cœur à distance et n'allaient point au-devant. La place était vide autour d'eux, ils ne remuaient que le vent. Et l'auto n'a pas ralenti. Les phares sur les murs tournèrent, tout le pêle-mêle de la côte et les femmes qui parlent haut, les motos dans la rue étroite et les œillets chez les fleuristes, les postes blancs d'essence au bord des routes remplaçant les Christs, l'agence immobilière avec son triste assortiment, les tristes, dans le va-et-vient, le tohu-bohu, le boucan, le chaos. Les fruits confits et les tea-rooms, les autocars, les antiquaires, les gens d'ici, des gens d'ailleurs. Qu'est-ce compte-t-il? Qu'est-ce qu'il croit? Ces trop beaux garçons des trottoirs ont l'œil rond des oiseaux de proie. Qu'a fui ce gros homme blafard, qu'il ait toujours l'air d'avoir froid? Oh, moderne Robert Macaire, entre Rotterdam et le Caire. Miramar et les Bella Vista se langagent au goût des putains. Palais Louis XV, immeuble peint, balcon d'azur à colonnettes, beau monde où... Si tout est à vendre à des conditions honnêtes, c'est toujours service compris pour cet univers à sonnette. Il suffit de 2 enfants rencontrés, tout cela s'éteint. S'éteint, s'efface, et perd avec la nuit son semblant d'insolence. Il ne reste à mes yeux que ce lieu banal, que cette avenue, ce banc près des maisons blanches au soir tombant, 2 inconnus. Il ne reste à mon cœur que l'entrelac de ses mains ingénues, ses 2 mains nues. Il ne reste à mes lèvres enfin que ce silence, comme une promesse tenue.
On écoute un peu de musique?
Oui.
L'impero divino divota obbediente. Corro veloce ed i trini fasti sulle memorie spente. T'abbraccio, mio divo, ti sreglio.
créature. Créature. Royaume ancien de la légende aux confins des vents et des pluies, les esclaves vendus, les bagnards enchaînés sur les galères, sur la tour guettant Tristan, mouraient avant les heures claires, avant Iseux d'Irlande ensemble et l'aube à genoux près de lui. Il n'est plus d'enchanteurs ni de fées, oh Bretagne imaginaire, rien que des prisonniers exécutant un travail ordinaire. Un petit chemin de fer côtier de Saint-Michel à Plestin. Ah, ce n'est pas la vie de palace ou la cour de roi Arthur. S'il tente de s'enfuir, les GVC tirent dessus pour sûr, mais à côté de ceux qui sont au front, les plaindre est enfantin. Vous ignorez comment vivent les ouvriers français sans doute, ou les nord-africains qu'on emploie à l'empierrement des routes. C'était vrai, j'étais en ce temps-là profondément ignorant. Il y avait tant de grands mots que je ne savais lesquels croire, et les beaux nuages passaient toujours au fond de mon miroir. Le monde avec lenteur prenait pour moi des habits différents. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Moi qui frémissais toujours je ne sais de quelle colère. Deux bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste en dormant léger qui me frôle, un souffle posé, moins une rosée contre mon épaule. Un front qui s'appuie à moi dans la nuit, deux grands yeux ouverts, et tout m'a semblé comme un champ de blé dans cet univers. Un tendre jardin dans l'herbe où soudain la verveine pousse, et mon cœur défunt renaît au parfum qui fait l'ombre douce. Donc il ne reste plus guère de temps.
Il reste 4 petites minutes, Sophie.
Moi, je voudrais raconter une petite chose, mm-hmm. Enfin une petite chose qui fut une grande chose. Aragon a fait un très beau livre sur Victor Hugo, il appelle ça « Avez-vous lu Victor Hugo ?» Et il crie comme ça, il est « Oh juge !» Ça c'est Victor Hugo qui parle. « Vous jugez les crimes de l'aurore, Victor Hugo !» Et lui, il raconte « Sur la place Victor Hugo, comme un symbole du bimillénaire de la capitale, on fit installer à l'époque où Eisenhower se mettait à Marly, dans ses meubles après que Montgomery se fut mis dans les siens à Fontainebleau, où le tout Paris se dressait comme un seul homme moins deux, devant la souriante Mademoiselle Trouman au Théâtre Français, on fit installer sur la place Victor Hugo, embrasée de projecteurs, comme Notre-Dame de Paris, paraît-il, au bénéfice des scouts aveugles, car on n'a rien omis pour désarmer la sensibilité du passant, une magnifique automobile Ford qui demeure. Elle y demeura 15 jours sans qu'à ma connaissance une seule voix se soit élevée pour rappeler à la décence ceux qui disposent des places publiques. Une automobile Ford qui remplaça sur la pelouse celui que Dieu mit au centre de tout comme un écho sonore. Une automobile Ford pour effacer du bimillénaire de Paris celui qui écrivait où le sphinx dit « Chaos », Paris dit « Liberté ». Une automobile fort de l'image de cette civilisation de baignoire et de frigidaire pour laquelle il fallait prendre le bronze du bonhomme aux renommées, le bronze de Victor Hugo, enlevé par les nazis, afin d'en faire les canons de la croisade, oui, contre l'Est. Maintenant une automobile Ford pour faire oublier celui qui, rentrant à Paris à la chute du Bas-Empire, disait à la foule dans la gare du Nord « Et savez-vous pourquoi est la ville de la civilisation ? C'est parce que Paris est la ville de la Révolution !»
Sophie, merci. Merci pour cette belle émission sur les poèmes de Louis Aragon. Il est déjà l'heure de nous quitter. On se retrouve lundi, premier lundi du mois de novembre. Ce sera le 4 novembre,
oui,
de 17h à 18h. À très bientôt.
À très bientôt.